BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante, numéro 238, soyez les bienvenus. Au sommaire, un mois tout juste, Kerwan est porté disparu. Ce jeune garçon de 18 ans s'est comme volatilisé après une soirée passée en boîte de nuit avec ses amis. Aujourd'hui, ses proches se réunissent pour appeler à la mobilisation. Nous recevrons dans un instant la belle-mère d'Erwan sur ce plateau.
36 ans que Grégory Charlier se bat pour savoir qui a tué sa mère, parti faire un jogging. Un dimanche soir de juin 1988, elle avait été retrouvée en partie dénudée, avec des blessures à la tête et dans le dos. L'ultime espoir de son fils, le pôle des affaires non élucidées de Nanterre. Il sera, Grégory Charlier sera notre invité dans un instant.
Et puis à peine jugée, Monique Olivier va se retrouver dès demain, 10h, devant les juges. Elle sera entendue sur l'affaire Lydie Loger. Cette mère de famille a disparu. C'était à quelques jours de Noël en 1993. Disparition sans laisser de traces, mais la piste fournirait privilégiée. Monique Olivier peut-elle parler? Nous allons prendre cette enquête, ce sera dans la deuxième partie de l'émission.
Allez, affaire suivante, c'est parti, juste après le journal de Karine. Karine de Menonville.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Il est 13h, l'essentiel de l'actualité avec ce bilan très lourd dans le Gard à la suite des intempéries. 6 personnes sont portées disparues, dont 2 enfants de la même famille. À chaque fois, c'est le même scénario, des personnes qui tentent de traverser en voiture des ponts submergés lors des intempéries et un véhicule qui est emporté. Emeline Darcourt.
Les gendarmes descendent jusqu'au cours d'eau. Le toit de ce qui ressemble à un véhicule émerge. Hier soir, une voiture a été emportée alors qu'elle traversait un pont à proximité. Malgré ses panneaux et malgré une alerte donnée directement au conducteur par le maire et par cet agent municipal posté devant le pont.
Juste en face, donc je l'ai vu arriver à moi et je leur faisais signe, surtout pas passer. Mais apparemment, ils m'ont pas écouté, quoi. Donc j'essayais de faire des signes, tout ça, mais c'était... Quand elle est venue sur moi. Et ils étaient à moitié du pont et la voiture a commencé à tanguer et ça a été fini. Il y a une personne qui est sortie parce que moi je criais lui disant « Sors, sors, sors !» sur les digues droites. Et il s'est mis sur un arbre et on appelle vite les pompiers et tout ça qu'ils interviennent. Et puis on est arrivé à le sauver. On a sauvé. Les pompiers, ils ont fait vraiment une sacrée manœuvre. Ils sont allés de l'autre côté. Il a fallu qu'ils s'encordent parce que l'eau, le débit, il est important, très important dans la Gagnère. Comme je vous dis, quand il y a des grosses crues, le Dava, là, c'est impressionnant. Et pourtant, l'été, elle est calme. C'est pour ça qu'il faut faire très attention.
Les deux occupants de la voiture, de nationalité belge, ont une résidence secondaire dans la commune. Pour les riverains habitués à ces événements, la montée des eaux hier était beaucoup plus forte que les autres fois.
C'est monté plus que d'habitude. Jusqu'à présent, ça passait sur le pont sur une moyenne de 20 cm maximum, puis ça bouillait. Mais là, c'est monté à facilement 70-80.
La préfecture du Gard déplore d'autres événements graves. Ce matin à Goudargues, 2 femmes en difficulté au franchissement d'un pont sur la RD23 sont injoignables depuis leur message au secours, interrompu avant la fin. À Dionce, le véhicule d'une famille a été emporté.
Il y a à l'intérieur du véhicule 4 personnes en tout. Il y avait une personne qui a été secourue. Et pour l'heure, nous sommes en recherche d'une personne et de 2 enfants âgés de 4 et 13 ans. La mère de 40 ans qui a été secourue a été retrouvée, sauvée, et elle est au CHU où elle se voit prodiguer un certain nombre de soins et un accompagnement que vous imaginez.
Voici 2 images à Dionce pour se représenter l'ampleur de la montée des eaux. À gauche, le pont en temps normal. À droite, même emplacement. Ce matin, le pont est recouvert d'eau malgré une décrue déjà amorcée. Les intempéries, souvent très localisées dans le Gard, ont cette fois-ci concerné l'ensemble du département. Depuis vendredi matin, les précipitations ont atteint 150 à 200 mm dans les Cévennes. D'importants moyens humains et matériels ont été engagés pour la recherche des personnes disparues.
Alors, 6 personnes disparues dans le Gard, une 7e dans l'Ardèche, à Saint-Martin-de-Valamas. Un bilan porté par le ministre de l'Intérieur. Évidemment, les recherches sont en cours.
Aujourd'hui, nous avons 7 disparus. 6 dans le département du Gard, 1 dans le département de l'Ardèche et dans le département du Gard, un père de famille avec ses 2 enfants en très bas âge. Il y a eu toute la nuit beaucoup d'interventions des forces de sécurité civile, des sapeurs-pompiers notamment, que je voudrais ici très sincèrement remercier. 35 sauvetages qui ont permis de sauver des vies. Nous n'avons pas retrouvé pour l'instant trace des disparus, donc je ne peux pas me prononcer sur malheureusement leur statut. Ce que nous savons, c'est que évidemment ces épisodes ont été extrêmement difficiles, violents.
Et tout de suite, vous retrouvez Affaires suivantes avec Dominique Rizet et Philippe Godin.
Un mois très exactement aujourd'hui, Kerwan est porté disparu. Ce garçon de 18 ans s'est comme volatilisé après s'être rendu avec des amis à la boîte de nuit de la Morinière à Montcouton-sur-Sèvre. À 2h50, son téléphone cesse d'émettre. 10 minutes plus tard, des images le montrent sur le parking de la boîte de nuit et depuis plus rien. Une information judiciaire a été ouverte. Toutes les hypothèses sont évidemment envisagées. Un rassemblement est organisé aujourd'hui par ses proches pour continuer d'alerter. La belle-mère d'Erwan sera notre invitée sur ce plateau dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette mystérieuse disparition avec Anne-Solène Tavernier.
C'est un endroit prisé des jeunes le samedi soir. Ce 10 février, un rappeur connu se produit dans cette discothèque. Il y a beaucoup de monde pour faire la fête. Parmi eux, Erwan, que ses amis perdent de vue.
On ne peut pas rester tous les quatre collés, attachés, ce n'est pas possible. Mais avec le monde qu'il y avait, Erwan, il n'est pas grand, il est maigre, ce n'est vraiment pas un gabarit qu'on peut voir partout. Quoi. Puis il est habillé comme tout le monde, donc forcément, c'était difficile de le retrouver. Donc ça ne nous a pas trop interpellés à ce moment-là. C'était plus vers 4h du matin qu'on vient s'interpeller. Du coup, on a demandé aux videurs, on leur a montré une photo, ils n'ont pas vu.
Après une bêtise sans gravité, Erwan, fortement alcoolisé, est mis à la porte, raccompagné par un vigile sur le parking de l'établissement. Il est 2h30 du matin, l'étudiant part seul et à pied. Quelques minutes plus tard, son portable cesse d'émettre. Depuis, les gendarmes ont multiplié les recherches. Des plongeurs ont été déployés pour sonder les étangs à proximité en vain. Qu'est-il arrivé à Erwan dans cette nuit fatidique? Pour sa famille, ses sœurs, l'attente et le manque d'informations sont insoutenables.
On l'aime très fort et que oui, si jamais... Il a décidé de partir quelque part, au moins qu'ils nous disent, ou si jamais quelqu'un l'a pris avec lui, parce qu'on ne sait pas en fait. J'ai pas les mots.
Tu nous manques, Erwan, vraiment.
Une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. Les enquêteurs n'excluent aucune piste.
Et avec nous sur le plateau d'affaires suivantes, Karine, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la belle-mère d'Erwan. C'est difficile d'être là, de parler, merci d'autant plus. Et c'est important de vous entendre pour qu'on n'oublie pas Erwan, que les recherches se poursuivent. Évidemment, on va vous entendre dans un instant à vos côtés, Maître Dylan Slama. Bonjour, merci
bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille d'Erwan. D'abord, à la maman que vous êtes, parlez-nous d'Erwan. C'est important qu'on parle de lui. Comment il est, Erwan?
Erwan, c'est un jeune... C'est un jeune, comme il en existe des millions en France, c'est un jeune gentil, posé, calme, réfléchi. C'est pas un tout fou. Voilà, c'est un jeune qui est bien dans ses baskets et qui aime la vie et qui aime ses potes, ses copains, sa formation.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Il est en BTS Banque à Poitiers, formation qu'il aime vraiment beaucoup. Il avait pas mal de projets, il était... Voilà.
C'était un garçon heureux ?
Oui.
Pas de raison qu'il fugue ?
Non.
Vous voulez être posé, j'imagine, mille fois cette question.
Mille fois, et c'est vraiment... S'il y a vraiment une piste qu'on a écartée rapidement, c'est celle-ci.
Pourquoi ?
Parce que ça ne colle pas avec sa personnalité. Il est bien à la maison, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Que ce soit avec nous, avec ses amis, avec... Voilà, il a aucune raison de quitter la maison de cette manière-là. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Alors, je ne dis pas qu'il y en a toujours. Mais non, et même au niveau des forces de l'ordre, ils ont écarté cette piste aussi très rapidement.
Karine, vous dites, c'est un jeune comme des millions de jeunes, c'est pas un tout fou. Il est en BTS et à un moment, vous passez à l'imparfait. Vous dites qu'il avait pas mal de projets.
C'est horrible. Oui, il a des projets de vie, il a des projets, mais comme on a des projets à 18 ans, où on a envie de croquer la vie. Il a envie de voilà, d'évoluer professionnellement. Il a, c'est un jeune qui est malin, qui est, voilà. Voilà, il avait plein d'envie de par sa formation, oui, de par ce BTS.
On va parler de ce mois écoulé et revenir à cette question avant, parce que vous parliez de ses amis et de ses proches. Ils étaient nombreux, ils sont nombreux. On va retrouver Boris Karlamov parce qu'un rassemblement a été organisé aujourd'hui pour mobiliser Boris. Il y a de nombreux amis d'Erwan qui sont là, il y a ses proches qui sont là et qui s'accrochent à l'idée que des gens peuvent parler, qu'il peut se passer des choses.
Oui, c'est l'un des objectifs de ce rassemblement qui est toujours en cours juste derrière moi dans cette salle des fêtes de Sorée. Sorée, pour vous expliquer, c'est dans ce village des Deux-Sèvres, eh bien, qui est domicilé Karine ainsi que le reste de la famille d'Erwan. Un moment convivial, un moment positif. Voilà ce que nous disait son demi-frère Mathias hier après-midi. Un moment qui rassemble pas loin de 80 personnes depuis ce matin. Il y a des membres de sa famille, il y a ses copains, ses camarades du club de football, mais également des anonymes qui sont venus là pour adresser des messages de soutien. Alors à l'intérieur de cette salle des fêtes, on échange, on parle forcément d'Erwan, il y a des collations qui ont été mises en place, il y a des petits papiers qui ont été installés afin d'inscrire des mots de soutien à la famille. Un moment qui se veut chaleureux et surtout qui fait en sorte qu'on n'oublie pas Erwan. Alors il y a cet objectif aussi, c'est un peu raviver les esprits, raviver les mémoires. Et si eh bien, une personne qui se trouve à l'intérieur pense à un souvenir de cette soirée-là. La famille encourage forcément ces personnes à témoigner le plus rapidement possible auprès de la gendarmerie, parce que voilà, cela fait un mois, cela fera un mois la nuit prochaine que ce jeune homme de 18 ans, plein de vie, comme vient de le décrire Karine, eh bien, a disparu dans ce département des Deux-Sèvres et toutes les hypothèses sont encore étudiées par les enquêteurs. Ce sont pas loin de 5 enquêteurs qui travaillent nuit et jour dans cette affaire, Philippe.
Merci Boris, on va revenir vers vous dans un instant, on va évoquer l'enquête avec vous aussi bien sûr, Maître. Un mois c'est tellement long quand c'est son fils qui a disparu. Comment vous faites? Comment vous tenez? Qu'est-ce que vous vous dites tous les jours?
Alors je ne vous cache pas que ça devient difficile, parce que les premiers jours on est dans le faire, on est dans l'action, on est sur le terrain. Il y a du monde, on est très entouré, les gendarmes sont très présents. On a fait beaucoup de choses, il y a eu énormément de moyens qui ont été mis en œuvre. Donc on était dans l'action. Aujourd'hui, c'est très différent. Les gendarmes travaillent toujours, bien évidemment. Mais nous, on va dire que on a qu'à attendre. On ne peut pas, on n'a pas d'informations du fait de l'enquête. Et sur le terrain, on a épuisé toutes nos ressources. Donc, hormis aller vérifier une hypothétique piste éventuellement qu'on aurait peut-être pas assez creusée, ça nous arrive de temps en temps. Mais globalement, on est dans l'attente d'une information, dans l'attente voilà d'un témoignage ou d'un élément majeur qui puisse nous orienter et puis nous rassurer.
C'est le temps de l'enquête, effectivement. Il y a des enquêtes, on en parle souvent avec Dominique, qui sont des fois malmenées ou qui commencent mal ou qui démarrent mal. Là, on a le sentiment, Maître, qu'il y a eu une mobilisation importante, très rapide, qu'il y a eu des battues, qu'on a sondé les forêts, les lieux autour de cette boîte de nuit. Est-ce que l'enquête à ce stade, elle est bien conduite ?
C'est le sentiment qu'on a. On a été reçu par le magistrat instructeur, par le procureur de la République. Si vous voulez, le travail est fait, le travail est bien fait. Nécessairement, il y a une immense frustration de notre côté. Elle est double, bien sûr. C'est que le travail peut être exceptionnel, diligent et rapide. Aujourd'hui, il n'y a pas de résultat concret. Vous voyez, encore une fois, ça remet pas en question le travail qui est fait. Bien mais sûr. C'est vrai qu'on n'a pas de résultat concret. Et la deuxième frustration qu'on a, c'est que l'enquête, elle a aussi un caractère secret. Ça veut dire qu'on a beau être parti civil, on a beau être la mère, le père, les proches d'Erwan, et encore une fois, avoir un accès au magistrat instructeur qui est disponible, qui est à notre écoute. C'est pas ça que je remets en question. Oui. Mais il y a un caractère secret de cette information judiciaire et de cette enquête. Et encore une fois, ce caractère secret, je le précise, c'est pour préserver l'enquête. Si tout venait à être divulgué, cela pourrait menacer les investigations, leur pérennité et leur sécurité. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Parce
à
que
ce
oui,
stade, sur cette enquête, quand vous dites qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a, enfin, en tout cas, rien qu'on ne sache.
Voilà.
Rien qu'on ne sache. Et on espère que les enquêteurs ont des éléments qu'ils ne peuvent pas communiquer pour le secret. Mais nous, pour l'instant, et vous, vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'il s'est comme volatilisé sur le parking de cette boîte de nuit.
Exactement. C'est pour ça que de notre point de vue, et plus particulièrement du point de vue de la famille d'Erwan, la frustration est immense. Et on espère, et on vous remercie de votre invitation, que justement, ce type d'alerte ou d'émission peut-être, effectivement, susciter chez quelqu'un qui regarderait l'émission, ah oui, je me rappelle d'un détail, etc. Parce qu'on se sent aujourd'hui très démunis. Et comme le disait Karine il y a un instant, au début, il y a beaucoup d'action, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'inaction peut, si vous voulez, peut être vertigineuse, parce qu'on est dans une espèce d'attente, de sas d'attente, et dans une espèce d'impuissance qui est très, très difficile à vivre. Entre, d'un côté, une enquête sur laquelle, non seulement, on n'a aucun moyen d'action, mais qui, en plus, est secrète, et de l'autre côté, j'ai envie de dire, une enquête privée ou une réflexion privée du côté de la famille, bah, qui patine un peu, parce qu'au bout d'un mois, on a beau se poser 1000 fois les mêmes questions, bah, on n'a pas de nouvelles réponses à apporter.
On le disait tout à l'heure, parce qu'on en a parlé ce matin, il y a des enquêteurs travaillent sur plusieurs groupes. La famille fait partie des groupes sur lesquels travaillent les enquêteurs. Vous êtes une grande, belle famille recomposée. Je crois qu'il y a 8 enfants, c'est ça ? 9. 9 enfants, un papa, une belle maman, et une maman et un beau papa. Hein. À chaque fois, les gendarmes sont venus chez vous, ont perquisitionné, vous ont posé des questions ?
Alors, perquisitionné, non, ils sont venus vérifier.
Je dis bien perquisitionné, parce que...
Non.
Moi, ça fait...
Non.
D'accord ?
Techniquement parlant, perquisitionné, non.
Non, d'accord.
Ils sont venus, on a été entendus, tous les enfants ont été entendus, certains conjoints, même des enfants ou amis. Voilà, on sait, on entend et on a bien compris qu'effectivement, à ce stade-là de l'enquête, on fait partie effectivement des.
C'est normal, hein, ça n'a rien.
Entre guillemets, des suspects ou des personnes. Voilà.
Et même si c'est normal, comment vous vivez tout ça ?
Très mal.
C'est tellement dur.
Très, très mal. Et plus les jours avancent et plus c'est difficile. C'est difficile de trouver. C'est difficile de trouver une motivation pour se lever le matin. C'est difficile de trouver des raisons de vivre, nous. Mais pour les enfants aussi, pour mes belles-filles, mes gendres, c'est très difficile de reprendre le travail ou simplement d'avoir une activité de vie normale et de se dire, mais je suis là, limite, je souris ou je ris. Et Erwan n'y rit pas. Et ça, c'est insupportable. C'est d'une violence et c'est d'une... C'est, quand je disais sur la page que c'est une douleur physique, c'est vrai. La douleur, on la ressent physiquement. Le manque, l'absence, c'est horrible. Hier soir, j'ai eu un moment, ma fille a descendu l'escalier, je me suis tournée, j'ai vu Erwan. Ça m'a... C'est effroyable. Il n'y a pas... Tant qu'on ne traverse pas ce genre de choses, on n'imagine même pas ce que ça peut vous faire endurer.
Cet appel que vous lancez, il faut le reformuler encore une fois, comme le faisait votre avocat, vous demandez à tout le monde, tous ceux qui sont là, responsables ou non de quoi que ce soit, anonymement ou pas, mais de parler.
Tout à fait. On ne veut même pas savoir qui, quoi. On veut juste une information qui nous permette de le retrouver. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui a bien pu se passer, peu importe. Vous pouvez tout à fait donner une information de manière anonyme, sans être impacté. Voilà, on n'est pas dans la notion de représailles ou de on n'en est pas là. Nous, on veut juste retrouver Erwan. On veut juste retrouver notre fils, notre frère, notre voilà, c'est tout ce qu'on demande.
Mais tout est envisagé aujourd'hui. Une mauvaise rencontre, malheureusement, un accident, tout est possible.
Tout est envisagé. Il y a des points d'eau qui ne sont pas très loin, donc tout est envisagé. Donc le travail des enquêteurs, encore une fois, je le redis, qui est de qualité, qui est diligent et qui est efficace, voilà, est fait. Mais toutes les hypothèses sont sur la table. Alors a été évoquée la disparition volontaire. C'est une hypothèse qui a été posée sur la table. Mais c'est vrai que on a tendance à l'exclure, bien évidemment. Mais lorsque je dis « on », c'est pas seulement nous. Ça veut dire qu'on n'a aucun élément tangible qui permette de penser qu'il se serait, qu'il aurait, j'ai envie de dire, fugué volontairement. Mais oui, nécessairement, toutes les hypothèses sont sur la table. Et en fait, par définition, il est très difficile d'exclure définitivement l'une de ces hypothèses. Mais c'est vrai qu'on a envie, avec la famille d'Erwan qui se bat très, très courageusement, on a envie de croire à une issue positive, encore une fois. C'est pour ça que ce rassemblement est encore un rassemblement positif, parce qu'on veut croire à une issue positive.
Et vous avez déposé plein plainte contre la boîte de nuit dans laquelle il a passé la soirée.
Tout à fait, il y a une plainte qui a été déposée parce qu'on estime qu'il y a des zones d'incertitude. Donc là aussi, c'est, si vous voulez, le champ de l'enquête qui peut s'étendre jusque-là. Peut-être est-il, et sans doute d'ailleurs, est-il trop tôt pour affirmer quoi que ce soit de manière définitive. Mais à tout le moins, il y a des choses à éclaircir, potentiellement des manquements. Ça, si vous voulez, c'est pas à moi de le dire aujourd'hui sur votre plateau. Il y a eu des manquements. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a des questions qui se posent et que les questions, toutes les questions doivent se poser. Il ne doit pas y avoir de questions taboues. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder aussi dans la direction de cet établissement pour voir si tout a été fait, s'il y a des zones d'ombre et est-ce que, j'ai envie de dire, la lumière ou en tout cas, est-ce que la vérité pourrait aussi passer par des investigations peut-être plus poussées de ce point de vue-là.
Karine, dans l'hypothèse où Erwan serait parti, aurait fugué pour X raisons, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui ?
Rentre, Lolo. Rentre. On s'en fiche de... Voilà, on trouvera s'il y a des raisons à un départ volontaire, parce qu'on part pas comme ça, on quitte pas sa famille comme ça, ses amis. S'il y a des vraies raisons, ben, s'il faut qu'on travaille dessus, on travaillera dessus ensemble. Mais rentre.
Merci infiniment d'avoir eu le courage de venir ici. On vous souhaite bon courage
merci
pour la suite.
Merci
à vous, à toute votre famille. Merci beaucoup, maître, merci d'être venu. Merci à Boris Karlamov aussi, qui travaille sur ce dossier depuis le début pour BFM TV, avec qui on suit le rassemblement aujourd'hui et évidemment l'enquête. Et on espère le meilleur pour vous. Merci beaucoup,
merci beaucoup
d'être venu sur le plateau
merci
d'Affaires Suivantes. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant avec l'appel d'une famille au pôle des affaires non élucidées de Nanterre. 35 ans que Grégory Charlier se bat avec sa famille pour savoir qui a tué sa mère, parti faire un simple jogging dominical. Il espère beaucoup aujourd'hui de ce pôle. Les juges de Nanterre vont-ils se saisir de ce mystère de la 26 ? Grégory Charlier sera avec nous dans un instant. Tout de suite.
BFM Radio.
h 27, la suite d'Affaires Suivantes. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Le pôle des affaires non élucidées de Nanterre a célébré ses 2 ans d'existence cette semaine. Un pôle qui représente pour bien des familles un ultime espoir, celui de connaître enfin la vérité sur ce qui est arrivé à leurs proches. Et c'est le cas de Grégory Charlier, dont la mère a été tuée sauvagement le 30 juin 1988. Depuis, il se bat pour que l'enquête avance et il lance un appel aujourd'hui au pôle des affaires non élucidées. Il sera notre invité dans un instant, mais d'abord retour sur la mort de Ghislaine Charlier, un meurtre qui pourrait bien relever d'un mystère encore plus grand, celui des disparus de la 26, Sainte-Solène Tavernier.
La conseillère municipale de 43 ans est très sportive. Ce soir de juin 1988, Ghislaine Charlier quitte son domicile d'un petit village de l'Aisne. Elle sort faire son jogging, une course dont elle ne reviendra jamais. Son cadavre à demi dénudé est retrouvé le lendemain dans un fossé, non loin de l'autoroute A26. La première autopsie conclut à un accident de la circulation. Son corps aurait cependant été bougé et retourné selon le légiste. Un corps avec des blessures à la tête et au dos, mais qui ne porte aucune trace d'agression sexuelle. À l'époque, un chauffeur de car scolaire est brièvement soupçonné du meurtre avant d'être mis hors de cause. Sans aucun indice concret, l'enquête piétine, plongeant la famille de Ghislaine Charlier dans le désarroi. En 1993, son mari va jusqu'à s'enchaîner aux grilles du palais de justice.
J'étais ignoré complètement, quoi. Complètement. Moi, je suis une victime. On ne s'occupe pas de moi. On ne s'est pas occupé de moi. On n'avait rien à foutre.
Une douleur, ravivée 10 ans plus tard, en juillet 2013, par une lettre anonyme écrite à la main sans faute d'orthographe, le mystérieux corbeau donne un nom.
Lors de soirée, cet homme prétendait connaître l'assassin de votre défunte épouse. Je vous informe que M. X, domicilié à Ménevray et habitant près de chez vous dans sa jeunesse, a des problèmes avec la justice.
Des accusations, mais pas d'éléments probants. L'affaire Ghislaine Charlier ne sera rouverte qu'en février 2019. Son corps est alors exhumé. La justice a fait le lien avec les disparus de la 26, 3 autres femmes tuées entre 1985 et 1988, le long d'une autoroute en construction.
Et avec nous, Grégory Charlier, bonjour. Merci beaucoup
bonjour
d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le fils de Ghislaine, évidemment.
Oui.
Et je le disais, vous menez ce combat depuis le début. D'abord, parlez-nous de votre maman.
C'est une femme active, très appréciée des gens. Bon, je ne l'ai pas connue longtemps, malheureusement.
Conseillère municipale.
Conseillère municipale dans un petit village de 150 habitants, dans l'Aisne. Donc investie dans la commune, dans les associations, et ben, une très belle mère, quoi.
Une femme sportive.
Oui, elle faisait du sport également, beaucoup de marche, de sport. Donc elle aimait bien s'entretenir. Donc,
c'est malheureusement comme ça que le drame va t'arriver.
Oui.
Un dimanche soir, c'était le 30 juin 88, elle va faire son jogging.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer?
C'est la chose qu'on aimerait bien savoir, exactement. Donc elle partait sur le chemin rejoindre mon père, qui travaillait donc un peu plus loin, et malheureusement, elle n'a jamais croisé mon père. Et quand elle est rentrée à la maison, donc là, on a commencé à faire des investigations au niveau, à l'époque, des hôpitaux, savoir s'il n'y avait pas eu d'accident. On avait prévenu la gendarmerie du fait que c'était une personne majeure, donc il ne pouvait pas faire de recherche à l'époque. Et tout s'est déroulé comme ça. Et le lendemain, donc avec des amis, la famille, on avait retrouvé le corps. Quoi.
C'est quoi la configuration de la famille à l'époque? Votre père, vous? Vous avez des frères, des sœurs?
J'ai un frère, oui, qui était parti de la maison depuis très peu à cette époque-là, qui est plus âgé que moi, un peu plus âgé.
Vous avez 17 ans quand votre maman disparaît?
16 ans au moment des
16 ans, ouais.
16 ans.
Votre frère est parti déjà?
Voilà, il était déjà parti sur la région parisienne, et donc on était à trois.
Et quand vous dites on la cherche avec la famille, il y a des frères, des sœurs, des oncles?
Voilà, les voisins, des amis de la famille qui étaient venus aider. Voilà, donc ensuite on a interrogé, selon le trajet qu'elle avait emprunté, les gens s'ils l'avaient croisé ou vu. Mm-hmm. Et à un moment, entre deux villages, plus de nouvelles. Et donc, une battue, entre guillemets, a été organisée. Et le corps a été retrouvé le long de la route.
C'est là qu'elle va être retrouvée, partiellement dénudée, oui. Avec des blessures à la tête, des blessures au dos.
Oui.
Pas d'agression sexuelle.
Apparemment, non.
Et c'est là que le mystère commence.
Oui.
Que vont faire les enquêteurs d'abord? Quelle est la piste qu'ils vont d'abord privilégier?
Alors, à l'époque, la première autopsie avait décelé un accident de la route. Donc, ils étaient partis là-dessus. Et une deuxième autopsie a été faite qui avait décelé que ce n'était pas un accident de la route. Donc, à l'époque, on pensait qu'une troisième expertise aurait été faite, ouais. Qui n'a jamais été faite. Donc, ils sont partis forcément sur deux sujets différents. Et à l'époque, donc ils étaient plus partis du côté accident de la route, qui était pour moi une chose peu probable à l'époque, malgré mon jeune âge, par rapport... au coup, on va dire. Et une personne était très suspectée à l'époque, oui. Donc il s'était focalisé dessus, et cette personne-là a plus ou moins, on va dire, dénoncé une autre personne, soi-disant, qui l'a suivie, et c'était une personne avec, à l'époque, une déficience mentale faible, et qui avouait le crime. Et donc, il avait été incarcéré à l'époque, et donc, c'est ce qui a fait stagner l'enquête. Avant que l'individu soit libéré, parce que ils se sont rendus compte que c'était pas du tout lui, ils étaient accusés à tort.
Et tout ça a mené les enquêteurs sur des fausses pistes, va faire traîner l'enquête, va faire qu'elle va s'enliser. En 2013, votre père va recevoir une lettre.
Oui.
Une lettre d'un corbeau, expliquez-nous.
Alors c'est une lettre, oui, donc forcément anonyme, qui relate comme quoi la personne connaîtrait l'auteur des faits. On n'a pas eu de suite là-dessus, hein. C'était transmis donc forcément aux forces de l'ordre de l'époque. L'enquête a suivi son cours, nous on n'a pas eu de suite par rapport à ça. Donc là-dessus, on était un peu bloqués par rapport à ça. Mais bon, voilà, les langues continuaient quand même à se délier, mais sans savoir si c'était une vérité ou pas.
Est-ce que vous savez si aujourd'hui il reste des scellés?
Effectivement, oui. Beaucoup de scellés.
Quoi?
C'est
vêtements, les oui. Vêtements qu'elle portait, oui,
oui.
Forcément, bien
oui.
Sûr, ouais.
Oui.
Elle était quoi, en jogging? Elle avait quoi, des baskets?
Non, elle était en short, haut ouais. Débardeur, un caoué, une paire de lunettes de soleil et baskets, bien sûr, oui.
Tout ça est récupéré, tout ça a été conservé.
Oui.
Ok.
Effectivement.
C'est autant d'éléments qui vous font dire qu'aujourd'hui, le pôle de Nanterre, donc ce fameux pôle des affaires non élucidées, pourrait reprendre votre dossier.
Oui, alors ça serait pour nous une chose positive pour plusieurs raisons. C'est que la première, dans l'évolution du dossier, actuellement notre juge d'instruction, qui est une très bonne juge d'instruction oui. Au tribunal de Laon, malheureusement nous quitte après ces 10 ans. Et le dossier donc va être transmis à la personne qui le remplacera. Donc on ne sait pas la suite qui peut être donnée. Et on conçoit parfaitement que ce sont des personnes qui ont d'autres affaires à juger, de droit commun ou autre. Donc ils ne peuvent pas se focaliser oui. Dessus. Et le Polkès donc, a été créé il y a 2 ans. Permettrait d'avoir un juge d'instruction attitré, des enquêteurs spécialisés que dans le domaine, et qui pourraient peut-être nous faire avancer plus rapidement au niveau de l'enquête et d'avoir un œil neuf.
C'est un appel que vous lancez vraiment à ce pôle. Vous dites aux juges Kéris, aux différents juges, prenez notre affaire en main.
Oui, j'aimerais bien pour ça, pourquoi pas rencontrer le procureur de la République de Nanterre, s'il accepterait de me recevoir pour en dialoguer, et pourquoi pas l'intégrer.
Comment se fait-il que le dossier soit toujours, toujours actif, hein, 1988, aujourd'hui ?
Alors, il y a eu des éléments nouveaux qui sont apparus, forcément.
La lettre du corbeau, c'est un élément nouveau ?
Bien sûr, ça fait partie des éléments du corbeau. Et il y a 3 ans, il y a eu l'exhumation qui a été faite. Donc forcément, on a été avisés parce que nous sommes les parties civiles. Sans s'y opposer, malheureusement, on ne pouvait pas s'y opposer. C'est quand même quelque chose de très dur.
C'est violent, oui.
Oui, très violent. Mais on se dit, ils ne font pas ça par hasard.
Après, vous avez une juge qui travaille.
Exactement.
On ne peut pas dire pour une fois que ce n'est pas vrai, mais là, vous avez une juge qui travaille, il faut salver son boulot. Elle fait exhumer le corps de votre maman, ça veut dire qu'elle cherche quelque chose, qu'elle a le souci de cette affaire, et il faut saluer son boulot, là.
Alors, donc, il y a 3 ans, ça a beaucoup bougé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dont on a eu des remontées par Maître Séban, des prises d'ADN, même sur la famille, pour écarter des pistes, des tests ADN, et pendant 6 mois, ça a énormément bougé, on a eu beaucoup d'espérance qui est de revenir, et on a eu un flot pendant 18 mois, un trou, où, il y a... On n'a plus une nouvelle, on n'a plus rien eu. Alors peut-être que la justice a des nouveaux éléments, mais qu'ils ne peuvent pas nous fournir ou des choses. Le problème, c'est que c'est trop en vague.
Là où il y a un espoir que le Paul Cold Case puisse reprendre ce dossier, c'est que l'affaire de votre maman pourrait être liée à une affaire plus large, Dominique, que vous allez nous raconter. C'est ce qu'on appelle l'affaire de la 26, des disparus de la 26. De quoi il s'agit, Dominique ?
Alors, les disparus de la 26, elles sont 4. Hein. Il y a 2 adolescentes et puis 2 femmes plus âgées, dont votre maman, qui ont toutes disparu ou ont été retrouvées mortes dans ce secteur de la 26 qui était en travaux au tout début. Hein. La première, elle s'appelle Sophie Borquet, elle avait 16 ans. Et en mai 85, elle disparaît à la sortie de son lycée. Elle est retrouvée morte dans une forêt à Homblières. 7 mois plus tard, Christelle Houdin, 13 ans, elle est dans le même collège-lycée que Sophie Borquet, elle a 3 ans de moins qu'elle. Elle disparaît novembre 85 et on retrouve son corps justement sur le chantier, fameux chantier de l'A26. Hein. Et là, il va y avoir tout un imbroglio parce qu'il y aura un non-lieu, puis une instruction qui va être reprise en 90, nouveau non-lieu en 92, des allers-retours, et l'acharnement de l'avocate, Corinne Herman, qui obtient en 2012 des juges qui le relancent l'enquête. Ensuite, en 1988, eh bien, c'est la disparition de votre maman, enfin, le meurtre, pardon, de votre maman, Ghislaine Charlier, 43 ans. Et en 88, au mois d'octobre, Marie-Thérèse Borde, qui est une dame qui a 55 ans, qui est tuée sur une aire d'autoroute de la 26 encore, et son corps porte de nombreux coups violents à la tête, comme portait des coups violents à la tête votre maman lorsqu'on l'a retrouvée.
C'est important parce qu'on sait comment travaille le Paul Cold Case en recoupant les éléments et ça permettrait donc peut-être de pouvoir faire qu'il reprenne en charge votre dossier. Pour conclure, il faut peut-être qu'on dise un mot de votre famille, des autres membres de votre famille.
C'est très dur pour la famille. Il n'y a pas une journée où on n'y pense pas. Pour mon père, c'est très compliqué. Il vieillit. C'est très dur, très très dur.
Il espère toujours savoir.
Bien sûr.
Un grand merci. Merci d'avoir eu le courage.
Merci,
c'est important qu'on parle de votre maman et qu'on lance cet appel qui est passé au Paul Cold Case pour qu'il s'intéresse à votre affaire et que la vérité puisse venir.
Merci
beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Tout de suite, les invités de la semaine. Quelques mois seulement après son procès, Monique, Olivier va de nouveau se retrouver face au juge du pôle de Nanterre. À partir de demain, elle sera entendue sur l'affaire Lydie Loger, une affaire non élucidée dans laquelle le couple fournirait pourrait bien avoir une responsabilité. À ce jour, les enquêteurs n'ont jamais réussi à élucider la disparition de cette mère de famille. C'était le 18 décembre 1993. Anne-Solène Tavernier.
À quelques jours du réveillon, Lydie Loger disparaît sans laisser de traces. Ce 18 décembre 1993 au soir, la jeune maman qui vient de faire ses courses de Noël se volatilise devant son domicile de ce petit village de l'Orne.
C'est le visage que Lydie avait quand elle a disparu. Elle est rentrée chez elle puisque ma maman l'a eu au téléphone. Et puis moi j'ai essayé de la recontacter dans la soirée. Impossible de la voir.
Les cadeaux pour son fils et le sapin de Noël seront retrouvés intacts, comme si de rien n'était.
Le lendemain, son époux va ramener son fils. Ils sont séparés, donc il ramène le fils pour la semaine. Et il va se rendre compte qu'elle n'est pas là, donc il ne va pas pouvoir déposer l'enfant. Et donc il va repartir avec l'enfant, avertir la famille, avertir la sœur.
La piste de la disparition volontaire ne colle pas. La jeune femme de 29 ans n'aurait jamais laissé derrière elle son fils âgé de 7 ans. Son époux est un temps suspecté, leur relation est conflictuelle, mais il a un alibi solide. Sans corps, sans indice et sans piste, les enquêteurs piétinent. Il faut attendre 23 ans avant que l'affaire rebondisse. Et si Lydie Loger était la 12e victime de Michel Fourniret ? Son ADN est retrouvé en 2016 dans la camionnette du tueur en série. 4 ans plus tard, l'ogre des Ardennes est mis en examen, lui qui a laissé entendre que son ex-femme était présente lors du meurtre. Monique Olivier pourrait bien être la seule personne encore capable de dire où se trouve le corps de la jeune femme.
Et invité d'affaires suivantes, Plana Radenovic. Bonjour, merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous, Plana, journaliste police-justice à RTL. À vos côtés, Francis Narbar, bonjour. On est ravis de vous accueillir, ancien procureur de la République de Charleville-Mézières, auteur du livre « Ma rencontre avec le mal » aux éditions Mareuil. On a beaucoup parlé avec vous, échangé sur le couple Fourniret, évidemment, au moment du procès de Monique Olivier. Elle va se retrouver demain, 10h, devant les juges, une nouvelle fois pour cette affaire Lydie Loger. Essayons de redresser le portrait de cette affaire Lydie Loger. D'abord, c'est terrible parce qu'on est le 18 décembre 1993, on est à quelques jours de Noël. Elle est maman d'un petit garçon de 7 ans, c'est ça? Elle est partie faire ses courses. Enfin, c'est l'ambiance de Noël qui vire au drame.
Oui, bah, c'est vraiment horrible parce qu'on est c'est un samedi, elle a fait des courses avec une copine, elle revient avec un sapin. Donc on voit bien qu'on est à l'ambiance de Noël. Le lendemain, elle doit retrouver son fils qu'elle a en garde alternée parce qu'elle est divorcée depuis peu. Et voilà, elle se volatilise littéralement. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle rentre chez elle vers 18h, elle passe des coups de fil. Oui. Et voilà, on ne sait rien du tout. Enfin, c'est vraiment le mystère absolu sur la suite.
Ça, pour l'enquêteur que vous êtes, c'est quand même terrible parce qu'on a, on a vraiment l'emploi du temps. Hein, le coup de téléphone de sa mère et de sa tante à 19h, et puis à partir de 21h30, plus rien.
Oui. Alors, Lydie Loger, j'en parle dans mon livre « Ma rencontre avec le mal », j'en parle à l'occasion justement de cette fameuse période blanche que certains ont appelée période blanche et qui est tout sauf une période blanche, puisque moi j'ai dénombré 17 faits, soit des meurtres commis effectivement, soit des tentatives d'enlèvement, soit des projets qui n'ont pas abouti. Et parmi ces 17, il y a effectivement l'enlèvement, le meurtre de Lydie Loger. Que j'imputais à Fourniret, mais je ne connais pas rien du dossier parce que je n'étais pas juridiquement compétent pour en traiter, donc j'ai jamais lu aucun procès-verbal de ce dossier. Simplement, j'en parle parce que effectivement, il y a après 2 instructions clôturées par des non-lieux, 4 années pour l'une, 5 ans pour l'autre, finalement, c'est réouvert en 2018 avec la découverte d'un ADN mitochondrial sur un matelas appartenant à Fourniret, découvert à Ville-sur-Lume, à l'occasion donc de la procédure, matelas qui avait été saisi à l'occasion de la procédure de 2008. Et cet ADN mitochondrial, donc transmis par la mère, il a un pouvoir moins discriminant qu'un ADN nucléaire, mais néanmoins, c'est tout de même un élément extrêmement important, d'autant plus qu'il y a également les aveux de Fourniret. Alors, à la Fourniret.
On trouve effectivement, donc, sur ce matelas, dans la fameuse camionnette, un ADN qui va matcher avec celui de Lydie Loger. On va interroger Michel Fourniret, qui va dire, en gros, qui d'autre que moi pourrait l'avoir tué?
C'est ça.
Il a encore une formule alambiquée, comme il sait le faire, et il mime un geste d'étranglement.
Oui.
Et avant d'en arriver là, peut-être juste pour dire un mot, parce qu'il faut penser aux sœurs de Lydie Loger, il faut penser à toute sa famille. Elles se sont battues, mais de façon incroyable. Elles ont placardé des affiches dans Alençon, elles se sont battues pendant des années. Il y a eu un combat incroyable de la famille.
Oui, en fait, comme souvent dans ces cold cases, ça démarre très mal l'enquête et la famille prend les choses en main. Là, les sœurs, elles se sont données vraiment à fond. Elles se sont vues répondre des choses telles que « votre sœur était volage, elle est peut-être allée voir un amant ». Enfin, en gros, on ne les a pas prises au sérieux. Et en fait, là, pendant 30 ans, elles espèrent des réponses. Elles ont encore lancé un appel à témoins sur RTL en juin dernier. Lancé un appel à témoins après 30 ans, enfin, c'est vraiment qu'elles n'ont rien du tout. Donc il faut voir ces dames qui ont maintenant une 50aine d'années et c'est le sens de leur vie. Quoi.
Et c'est aussi parce qu'elles doutent de l'hypothèse Fourniret. Elles ne veulent pas la prendre pour argent comptant.
Non, mais c'est parce qu'elles ont raison, parce qu'en fait, pour l'instant, alors c'est vrai qu'il y a cet ADN et ces aveux partiels, mais là, à date, comme dit l'avocat de Monique Olivier, jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas, en fait. Monique Olivier nie, pour l'instant. Donc, à voir.
Et même son cause par Fourniret comme étant présente sur les lieux, dans le département de l'Orne. Ouais. Il y avait plusieurs raisons pour qu'ils connaissent ce département et qu'ils y circulent, d'une part. D'autre part, il y a quand même un élément qui me semble important, c'est qu'ils sont tous les deux mis en examen. Lui pour arrestation ou séquestration suivie de mort, et elle pour complicité. Pour être mis en examen, il faut quand même des indices suffisamment graves, précis et concordants.
Qu'est-ce qui ferait que demain, elle se mettrait à parler ?
Si vous me posez la question, je vais vous renvoyer ma réponse que j'ai faite à une de vos questions également sur Estelle Mouzin. Mm-hmm. Je ne crois pas, je suis malheureusement convaincu qu'elle ne parlera pas. Comme je l'avais dit pour Estelle Mouzin, et malheureusement, j'ai eu raison, je dis bien malheureusement bien pour les familles des victimes, bien évidemment, elle ne parlera pas plus qu'aujourd'hui. Elle a été condamnée une seconde fois à perpétuité, et j'imagine qu'elle doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Vous voyez, c'est toute son inhumanité, c'est tout le mépris dans lequel elle peut tenir les victimes. Qu'est-ce qu'elle a à y gagner? Elle n'a plus rien à perdre.
Elle a à y perdre un nouveau procès, aux assises.
Oui, et puis, elle peut au moins, une fois dans sa vie, faire le bien et aider ses deux sœurs, la famille de Lydie Loger, à pouvoir donner enfin une sépulture normale à leur sœur. Au moins, elle pourrait faire ça une fois dans sa vie. Elle sait qu'elle va terminer ses jours en prison. Mais j'espère encore une fois me tromper, mais je suis persuadé qu'elle ne dira rien. Elle contestera tout. Parce que c'est son mépris, c'est voilà. Qu'est-ce que j'ai à y gagner ? C'est terrible comme phrase.
Ouais. Est-ce qu'il y a planat dans la disparition, dire le meurtre, même si on n'a pas la trace du meurtre, d'autres hypothèses ?
Il y a eu au début l'hypothèse du mari, parce qu'il y avait des violences conjugales suspectées, enfin du mari, de l'ex-mari, puisqu'ils venaient de se séparer. On sait qu'il lui parlait mal, enfin que ça se passait très mal, mais ça a été très vite écarté parce qu'il avait un alibi en or. Et en fait, non, il n'y en a pas. Enfin, c'est ça aussi le truc, c'est que là, c'est aussi d'un côté un immense espoir de connaître la vérité, parce qu'il n'y avait rien, qu'on nageait complètement, qu'on fait un appel à témoins comme ça 30 ans après. Donc non, il n'y avait rien. Je me permets juste de rebondir parce que j'ai eu Maître Corinne Herman pour préparer l'émission. Alors elle y croit. Bon voilà, après chacun. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que Monique Olivier a toujours en fait aidé la justice, et beaucoup d'avancées quand même sont liées à des aveux qu'elle a fait. Et en fait, Corinne Herman, pendant le procès de Monique Olivier, a voulu un peu la préparer à cet interrogatoire qu'elle avait déjà en tête, Maître Herman, en disant. Madame, on vous croit, en parlant à Monique Olivier. Ce que vous dites, la justice ne l'écarte pas, la justice va le prendre pour argent comptant, on pense que vous pouvez les aider. Donc elle y croit. Alors, voilà.
Je vous laisse répondre, mais juste, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est intéressant de voir comment une avocate, lors d'un procès, pense à la suite et se dit, je pense à Lydie Loger et j'essaye de semer des graines pour qu'au moment où l'audition de Monique Olivier arrivera, donc en l'occurrence demain à 10h, il y a peut-être des choses qui germaient dans sa tête.
Oui, parce qu'en fait, là, le but de Corinne Herman, c'est qu'on retrouve le corps de Lydie Loger, de Corinne Herman, pour ses clientes, évidemment.
Bien sûr. Ben
voilà. Mais en fait, pour que Monique Olivier donne des indications sur le corps, il faut la mettre dans un certain bain. Enfin, évidemment que vous connaissez mieux que moi. Là, moi, je parle parce que j'ai eu Corinne Herman.
Bien sûr.
Évidemment, moi, j'ai jamais interrogé Monique Olivier comme vous. Mais en tout cas, il faut la mettre dans une certaine confiance, parce qu'elle fait du on-off pendant les interrogatoires. C'est-à-dire que des fois elle est à l'aise, elle parle, etc. Et dès qu'elle est mise en difficulté, elle se ferme complètement. Et là, c'est foutu en fait. On peut plus rien avoir. Et en fait, il faut vraiment avoir cette localisation du corps 30 ans après pour les sœurs.
Francis Nagbar, comment on fait quand on est en face de soi? On est magistrat, on est quelqu'un comme Monique Olivier. Est-ce qu'on se met en mode sympa? Est-ce qu'on oublie qui on est? Comment faites-vous pour demander à Monique Olivier, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tact, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez nous dire comment arrivez-vous à faire ça? Je vous admire.
Alors, avec Monique Olivier, je ne suis pas le seul à le dire, hein, tous les enquêteurs le disent, c'est affreux un interrogatoire. C'est 10-11 heures d'interrogatoire pour 3-4 pages de procès-verbal. Il y a des silences épouvantables, avec des grognements, des cris plaintifs, comme je l'avais déjà dit, avec ses cheveux qui lui tombent sur la tête pendant 10 minutes, un quart d'heure, où elle dit rien, des petits cris un peu gutturaux, des petits gémissements. Elle dit rien, ni oui ni non. Elle secoue la tête comme ça, ou de haut en bas, mais elle ne dit rien. Donc c'est extrêmement pénible. On ne peut pas sympathiser avec Monique Olivier. Et là où j'ai mis un petit bémol avec Maître Herman, je comprends bien l'efficacité que veut avoir Maître Herman et peut-être son habileté dans la conduite de cet interrogatoire et surtout des discussions informelles qu'elle peut avoir avec Monique Olivier. Mais là où j'ai mis un bémol, c'est je ne pense pas que les avancées, je parle jusqu'en 2008, hein, je parle pas après parce que j'ai pas eu à m'en occuper. Je ne pense pas que les avancées les plus significatives dans le dossier fournirait Olivier aient été dues à l'actif de Monique Olivier. Chaque fois qu'on a progressé, qu'on a retrouvé des corps, c'est uniquement Michel Fourniret. Uniquement parce qu'on pouvait avoir des conversations avec lui. On pouvait le flatter de manière un peu intelligente. On pouvait avoir des indices. Il mettait des pièges. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Il mettait des pièges. Mais à chaque fois, c'était grâce à lui. Elle nous a jamais aidés en rien. En rien. J'allais dire bien au contraire.
Est-ce que l'idéologie... C'est là où
peut-être j'ai mis une petite réserve sur
avait ce que vous dites. Le profil des proies recherchées par Michel Fourniret. C'est pas forcément ce qu'on se dit, naturellement.
Non, alors ça aussi, c'est intéressant, parce que en fait, donc, c'est une maman, elle a 29 ans, elle a un enfant de 7 ans, ouais. Donc c'est pas une jeune fille vierge comme ce qu'on imagine. Mais justement, et ça, Corinne Herman le dit souvent, en fait, dans le tableau de chasse de Fourniret, si on peut se permettre de parler comme ça, il y a une vingtaine de jeunes femmes qui ont plus de 20 ans et qui sont pas en fait des petites adolescentes ou des petites jeunes filles comme Estelle Mouzin. Donc en fait, comme l'a dit Daniel Zaguri dans le psychiatre, dans son expertise, c'est un tueur multicarte. C'est-à-dire qu'en fait, il a parfois envie de tuer et il a des pulsions, et etc. Mais ce n'est pas que avec les jeunes femmes vierges. Donc oui, elle pourrait aussi correspondre en effet.
D'autant plus que durant cette période, en quelques années, il a agressé Joël, la toiletteuse pour chien. Elle a à peu près, elle est même plus âgée, elle avait 35 ans. D'accord. Il a agressé la conductrice d'une Ford Fiesta bleue. Il avait un projet d'enlèvement d'une infirmière en Belgique qui était à peu près du même âge que Lydie Loger. Il a été condamné pour l'agression de 3 jeunes femmes dans les années 89-90 qui ont également le même âge. Donc, il y a effectivement, c'est un multicarte, comme vous l'avez dit tout à fait justement. C'est un multicarte. Il a des aveux qui sont quand même des aveux à la Fourniret. Enfin, moi, côtoyé de très près. Quand il dit son visage ne m'est pas inconnu, je reconnais bien là ses traits. Si son ADN a été relevé, c'est qu'elle a croisé le chemin Fourniret. C'est son expression. Ouais. Et puis l'ADN mitochondrial.
Bien sûr.
C'est pas un ADN nucléaire, mais c'est quand même un ADN mitochondrial.
Et on verra.
C'est comme ça qu'on a identifié le crâne de Louis XVII avec un ADN mitochondrial pour l'anecdote. Donc c'est quand même, ça n'a pas la même force probante, discriminante qu'un nucléaire, mais c'est quand même corroboré par des aveux Fourniret, ça me paraît quand même du solide.
Audition de Monique Olivier demain 10h par la juge Kéris. On pense évidemment aux sœurs Loger qui se battent et qui espèrent savoir la vérité. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires Suivantes. On vous souhaite un bon dimanche et Dominique, on se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires Suivantes. Bon dimanche, Cécile.
Affaire suivante sur BFM Radio.